Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Puis nous lisons Luc au chapitre 4, les versets 1 à 14. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors, le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et du monde, et lui dit, « Je te donnerai tout entière autorité et gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Alors ce texte des tentations, il est bien souvent utilisé en temps de carême, et nous ne sommes pas en temps de carême, mais après les vacances, bien souvent au moment de la rentrée, c'est le temps des bonnes résolutions. Je vais prendre la résolution de me mettre au régime parce que j'ai pas trop fait attention, alors j'ai un peu grossi, je vais refaire du sport, ça me fera du bien. Je vais me tenir un peu plus à mes études. Je vais m'inscrire à une nouvelle association, histoire d'être bénévole et puis de faire quelque chose de bien. Et puis peut-être que certains se disent, ben, je vais peut-être essayer de mieux résister aux tentations. Mais certains d'entre vous, en écoutant ce texte, se sont peut-être dit intérieurement, oh, encore une prédication sur les tentations. J'en peux plus des prédications sur les tentations. Alors dans ce texte, qu'est-ce qui nous interpelle? Eh bien justement pour moi, ce n'est pas les tentations. Je vous pose donc une question. Pourquoi Luc nous raconte-t-il cela? Pour marquer une continuité de l'Évangile avec l'Ancien Testament? C'est une réponse possible. D'autant que les références bibliques de l'Ancien Testament sont nombreuses dans ce passage. Jésus cite plusieurs fois les Écritures et même le diable. Et puis, tout juif connaissant bien les Écritures aurait pu faire les mêmes réponses que Jésus. Et aujourd'hui, Ne pourrait-on pas dire la même chose de toute personne connaissant bien la Bible? Alors, avant de répondre simplement à la première question, j'en ajoute une deuxième. Pourquoi Luc écrit-il précisément ce passage ici et non pas un ou deux chapitres avant ou quelques chapitres après? Après tout, ce passage des tentations, en lecture isolée, si vous le prenez tout seul, semblerait pouvoir être écrit en maint autre endroit du texte. Parce que le lien direct avec le reste de l'œuvre n'est pas très fort, il est plutôt faible. Donc voilà, d'emblée, je pose deux questions qui demandent une lecture attentive de ce qui est important dans ce texte. Donc pour comprendre la lecture que je vais vous proposer, c'est une lecture possible, hein, c'est pas la seule, hein, il y en a beaucoup d'autres. Je reviens sur le contexte des chapitres précédents et suivants. Et donc, un bref aperçu de l'évangile de Luc. Luc écrit dans un but précis, et son texte est très structuré. Afin d'induire chez Théophile, qu'il cite au tout début, et d'autres lecteurs, peut-être nous aujourd'hui, une lecture théologique de l'évangile qu'il rapporte après s'être soigneusement informé. Donc dans les récits de l'enfance, au tout début de Luc, les cantiques de Marie, de Zacharie, de l'armée céleste et de Siméon pourraient assez facilement être détachés de la narration sans que pour autant le fil du récit soit rompu. Essayez de lire le début de Luc sans les cantiques, vous verrez, vous comprendrez très bien. Mais si on se prête attention à ces cantiques, ils viennent nous dire que la naissance de Jésus est l'événement le plus important, une naissance qui s'inscrit dans une dynamique d'une promesse antérieure au bénéfice d'Israël et qui maintenant concerne l'humanité tout entière. Et ces cantiques soulignent aussi le caractère salvifique du dessein de Dieu par le ministère de Jésus. Ces quatre paroles de louange donnent une tonalité particulière de joie. Elles sont là pour guider l'acte de lecture et mettre en relief la narration qui suit. Puis après les récits de l'enfance, Luc écrit un prélude aux actes et aux paroles de Jésus. Et ce prélude nous raconte le baptême de Jésus, que je vous ai lu tout à l'heure. Mais un baptême tout particulier, où d'une part l'Esprit Saint est présent, et où la voix venue du ciel marque la relation filiale entre Dieu et Jésus. Comme pour Jésus, le baptême nous place dans une relation à Dieu. Puis Luc présente une généalogie de Jésus, mais une généalogie ascendante, et pour insister sur le fait que Jésus est fils de Dieu. Alors pour nous, dans cet évangile, Luc ne veut-il pas nous faire entendre l'humanité de Jésus tout autant que sa divinité? Et à mon avis, si Luc intercale aujourd'hui précisément à cette jonction après la genèse de Jésus, et avant ses premiers actes publics et sa première parole à Nazareth, ce n'est pas un pur hasard. Il y a une intention d'auteur derrière. Il est pour moi certain qu'à travers ce texte dit des tentations, Luc veut nous dire quelque chose d'important concernant Jésus lui-même. Alors maintenant, j'en viens directement au texte. Immédiatement après son baptême, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit. Dans le texte de Luc, c'est pas précisé pourquoi. Et comme le texte ne dit rien sur le pourquoi, on peut comprendre ces blancs de différentes manières. Dans les textes de la Bible, le désert est non seulement un lieu géographique, avec des traces de vie réduite, mais c'est aussi un lieu très symbolique. Alors fut-il conduit au désert pour approfondir ce qui lui a dit, ce qui lui a été dit à son baptême, pour en saisir et comprendre tout le sens, la portée, les conséquences, ou pour des révélations plus personnelles, plus intimes sur sa mission, pour prier, pour un dialogue avec son Père? Bien des passages du Nouveau Testament nous montrent qu'avant les grands événements de sa vie, Jésus s'isole pour prier. Pour Jésus, le déplacement au désert poussé par l'Esprit se fait juste après avoir entendu « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir ». Et c'est peut-être pour lui le moment d'entendre en lui-même, au plus profond, le sens de ce qui vient lui être dit. Quand quelqu'un nous fait une révélation intense sur nous-mêmes, sur notre identité, on a besoin d'un temps de silence, de recul, pour accepter cette parole. Donc ça demande du temps. Le désert peut aussi être le lieu de recueillement, celui où l'on décide de sa confiance en Dieu. Et nous, dans nos vies, si agités avec des agitations multiples qui viennent de toutes parts, est-ce qu'on prend le temps du désert, le temps du recueillement pour nous placer dans une position ajustée par rapport à ce qui nous est le plus intime, le plus personnel, pour nous placer sous le regard de Dieu et mettre notre confiance en lui? Alors Jésus a été conduit au désert, mais le texte ne dit pas, enfin le texte de Luc tout au moins, ne dit pas qu'il a été conduit au désert pour être tenté par le diable. C'est nous qui injectons ce « pour » dans le texte. En fait, Luc ne le dit pas. Le texte simplement dit « il fut conduit au désert où il a été mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours ». Et ce qui est étonnant, c'est que presque rien n'est dit sur ce temps passé au désert, si ce n'est que Jésus fut mis à l'épreuve et qu'il ne mangea rien pendant ces 40 jours. En grec, c'est le même mot qui désigne épreuve et tentation. Mais en français, on fait une différence. Une épreuve, c'est un conflit qui éprouve notre courage, ou notre volonté, ou notre résistance. Alors que la tentation, c'est l'attrait vers quelque chose de défendu, éventuellement par une loi morale ou par une loi religieuse. C'est l'incitation au péché, à la révolte contre la loi divine. Et plus généralement, c'est une envie à laquelle on ne résiste pas. Par exemple, le chocolat, par exemple. Donc le diable, celui qui divise, est-il venu pour créer la contradiction en Jésus, ou plus encore pour le séparer de son Père? Peut-être qu'au cours de ces 40 jours où rien ne nous est dit, le diable a essayé de rompre la relation entre Jésus et son Père, a tenté de lui faire refuser la mission qui va être la sienne. Et Jésus, dans ce temps, est probablement resté un avec son Père, uni, et ce serait la cause de l'échec du diable. Mais le diable ne s'avoue pas vaincu pour autant. Il attend un moment qui lui semble plus propice. Et cette action intervient justement, de manière abrupte, au moment où Jésus eut faim. C'est le temps du retour dans le monde des hommes. Bien souvent, quand nous sommes dans une position de faiblesse, parce que loin de Dieu dans nos cœurs, le diable se manifeste dans nos vies qu'il essaye de nous pousser à poser des actions contraires au commandement de Dieu. Mais l'expérience de ce qui divise peut aussi arriver au moment où l'intensité de la relation à Dieu est à son comble. Et elle vient alors brusquement interroger cette union à Dieu. Donc voilà, ça j'ai mis les... On va en arriver maintenant proprement dit aux tentations. Et dans cette expression, si tu es le Fils de Dieu, le si employé dans le texte grec indique que le diable pose d'emblée comme potentiellement vrai que Jésus soit réellement le Fils de Dieu. Parce qu'en grec, il y a deux si différents. Donc là, on suppose que c'est vrai. Enfin, le diable pose que c'est vrai. Alors, en forçant un peu l'expression, ne peut-on pas entendre « Puisque tu es le Fils de Dieu, alors montre-le. Donne-moi une preuve de ton identité de fils. Maintenant, ici, montre-moi que cette condition est bien vraie et réelle. » En fait, les deux tentations exprimées ainsi avec « si tu es fils de Dieu », elles sont vraiment sournoises. Parce qu'elles peuvent aussi amener Jésus à douter de sa propre filiation. Et cette tentation d'obtenir du pain commence par un miracle à partir d'une pierre, peut être perçue comme « en tant que fils de Dieu ». Si tu ordonnes à cette pierre de se changer en pain, elle deviendra effectivement du pain, puisque tu as lu à la puissance de Dieu, et que ta parole peut tout transformer, et ainsi tu pourras assouvir ta faim. Jésus refuse la logique du diable. Il refuse de faire une démonstration de sa qualité de fils de Dieu. Il refuse d'utiliser de lui-même, je dis bien de lui-même, à partir de sa propre volonté, la puissance de Dieu pour lui-même, afin de satisfaire sa seule faim individuelle et momentanée. La première réponse de Jésus commence par l'être humain. Il se place là avec les hommes. Il vit complètement avec nous. Le pain qui comble la faim. C'est ce qui, au premier niveau, rejoint notre vie corporelle, matérielle. Il est là dans notre monde. Et sa réponse reprend l'Écriture. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est en Deutéronome 8. Elle nous donne aussi à entendre que notre vie, il faut quand même pouvoir se vivre, et tant de personnes ne peuvent pas se nourrir correctement sur notre terre. Notre vie n'est pas uniquement matérielle dans la consommation des biens, aussi bon fût-il pour nourrir notre corps. Nous ne serons pas comblés par l'accumulation de biens, nous recherchons autre chose. Que certains de nos contemporains ne savent ni nommer, ni reconnaître. Nous sommes en quête d'une autre nourriture pour notre vie. Toute notre vie ne se résume pas à l'avoir encore plus et toujours plus. Ne sommes-nous pas bien souvent tentés de posséder des choses dont on pourrait fort bien se passer? Pour combien de personnes, et probablement moi-même d'ailleurs, elle n'est-elle pas encombrée de superflu? Si nous comprenions un tant soit peu qu'à l'univers de la possession répond la gratuité du don et du partage. En fait, Jésus ne répond pas par un long discours. Sa réponse est concise. elle vient aussi nous révéler ce qui nous fait vivre. L'écoute de la parole de Dieu qui est gravée dans sa mémoire et dans son cœur. Eh bien, la voilà, cette nourriture qui nous fait vivre et qui nous est absolument indispensable. Alors, après cet échec, le diable essaye de nouveau de détourner Jésus de Dieu. Il lui montre la terre habitée, une tentation qui fait appel au regard, et à un regard qui porte loin, toute la terre habitée, mais qui demeure quand même limitée. Les terres habitées, le monde uniquement terrestre, et peut-être en partie coupé de Dieu. Et le monde coupé de Dieu, il appartient au diable. Donc, il peut en disposer comme il veut. C'est lui qui peut donner ses royaumes de la terre habitée. Il ne peut que donner l'autorité sur ses royaumes et la gloire éphémère correspondante. Il présente donc à Jésus l'attrait du pouvoir et de la domination provisoire. Et là, il s'agit d'une condition éventuelle, dont la réalisation est espérée. Mais elle n'est pas encore réalisée. Si Jésus accepte de se prosterner devant le diable, alors il va se couper du monde céleste, il fera abstraction de Dieu. Mais en fait, Jésus voit bien au-delà des apparences. Il voit Dieu lui-même. Il se replace devant Dieu. Il se reconnaît dépendant de Dieu et de lui seul. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Et en Deutéronome 6, c'est versets 13 à 14, on peut lire « Vous le respecterez et vous l'adorerez lui seul. Vous ne prêterez serment qu'en son nom. Vous ne rendrez pas de culte à d'autres dieux. Les dieux des nations qui vous entourent. Plus que la puissance ou le pouvoir terrestre, ce que Jésus refuse sans équivoque, c'est de vivre sans Dieu, pour lui-même en totale autonomie. Et dans notre monde, nous le voyons tous les jours, l'attrait du pouvoir est grand. C'est un des moteurs les plus puissants qui guide l'action des hommes, et qui trop souvent provoque des ravages, des divisions et même des massacres au sein des peuples. Et quand nous acceptons d'être dépendants de Dieu seul, le pouvoir, la domination n'ont aucune valeur, aucun attrait. Alors au lieu de se préoccuper d'écraser les autres pour les dominer, il devient possible de se mettre à leur service. Dans un geste ou une parole d'amour fraternel. Donc le diable n'a toujours pas réussi à rompre la relation de Jésus à son Père, et Jésus à chaque fois a répondu avec les textes bibliques. Alors cette troisième fois, le diable lui-même va utiliser les textes bibliques pour déstabiliser Jésus dans sa vie, y compris sa vie corporelle. Écoutons ce passage du psaume 91. Car il donnera pour toi l'ordre, des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et s'il est vrai que tu es le Fils de Dieu, bien-aimé, il ne t'arrivera aucun dommage. Tu es à l'abri de tout. La protection divine est sur toi. Tu as des prix, de la valeur aux yeux de Dieu. Puis un père ne peut pas laisser son enfant mourir sans intervenir. On peut aussi rapprocher cette tentation de ce que les hommes disent à Jésus quand il est sur la croix. En Luc 23, on peut attendre. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui en disant « Il a sauvé d'autres gens. Qu'il se sauve lui-même, si le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent et lui présentèrent du vinaigre et dirent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui, il y avait cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, éloigne-toi. » Alors non seulement c'est encore une preuve que le diable existe, mais c'est bien plus que cela. C'est aussi une provocation à l'égard de Dieu. Parce qu'en effet, cela ne dépend pas uniquement de Jésus. Mais là, il faut aussi une intervention de Dieu. Et Jésus a bien compris qu'il y a une vraie provocation. Alors il n'accepte pas de mettre en péril sa propre vie pour apporter la preuve incontestable de sa qualité de fils. Et il va démontrer simultanément que la parole de Dieu dit vrai. Pour lui, la relation avec Dieu prime sans conteste sur sa vie corporelle. Et cette vie de relation est fondée dans l'assurance de la parole de Dieu. Jésus se place dans une position d'humilité et de confiance face à son Père. Si Jésus accède à ce que dit le diable, alors il ne sera plus dans la confiance. Il ne sera plus dans la foi. Il détruira la relation qui le relie à Dieu. Ce que Jésus réplique systématiquement au diable revient à dire « Le Père est tout pour moi. Je l'aime et sans lui, je ne peux pas vivre. » Et sur notre terre, les situations où l'homme met sa vie en danger, et peut-être même celle de la planète tout entière, semblent grandir avec les avancées scientifiques et techniques insuffisamment maîtrisées. À notre niveau personnel, nous pouvons aussi nous interroger sur que faire pour préserver nos vies. Et nous avons bien souvent du mal à agir avec discernement, sagesse et humilité. Et pourtant, s'enraciner en confiance dans la parole de Dieu nous éviterait bien souvent de prendre de mauvaises décisions. Alors dans ce texte, si Luc nous donne à entendre les tentations de l'avoir, du pouvoir, de la valeur, il me semble que ce qu'il veut prioritairement nous révéler, c'est l'identité profonde de Jésus. Ce qui est essentiel, ce qui le constitue comme fils de Dieu. L'écoute de la parole, l'humilité, une confiance absolue et Dieu comme seul point d'appui. C'est aussi la clé pour comprendre tout le ministère de Jésus. Tout ce que Jésus va accomplir s'accomplit, s'inscrit dans ces trois paroles, dans ces trois réponses. C'est uniquement après ce temps au désert qui lui a permis d'affronter clairement les choix d'une vie humaine dans la juste relation à Dieu que Jésus peut commencer son ministère. Et le verset 14 l'exprime bien, puisqu'il nous dit que Jésus retourna en Galilée, mais il retourne en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Si nous voulons vraiment être des disciples de Christ, nous aussi nous avons à prendre un temps de prière, de recueillement, pour nous rendre disponibles à une juste relation à Dieu en adoptant une attitude semblable d'humilité, de confiance et de dépendance.